À voix nue. Cette semaine, Amandine Casadamon rencontre Philippe Bouvard. Ce soir, un joueur accroché à sa passion.
On vous connaît comme homme de presse et journaliste multimédia chevronné. Vous avez rencontré et interviewé les plus grands noms de ces 60 dernières années, du moins en France, puisque vous êtes plutôt franco-français et fier de l'être. Les langues étrangères, c'est pas votre point fort. En revanche, Philippe Bouvard, il y a un domaine que vous connaissez particulièrement bien pour l'avoir pratiqué avec passion et des raisons. Une addiction qui aurait pu vous plumer et vous laisser sur le tapis, c'est le...
Le jeu, eh oui.
Et en particulier le poker. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres à ce sujet où vous décrivez cet univers qui vous fascine et dont vous pointez aussi les méfaits. Un soir, emporté par la fièvre du jeu, vous allez jusqu'à perdre l'équivalent d'une année de salaire ou vous laissez la voiture avec laquelle vous êtes venu. Finalement, le jeu n'a pas eu raison de vous. Vous n'êtes pas ruiné et votre femme ne vous a pas quitté. Vos enfants continuent de vous parler et vos amis vous estiment toujours. Une passion qui n'est pas venue sur le tard puisque enfant, vous aviez déjà le goût pour les jeux d'argent. Vous racontez proposer à vos camarades de parier à un jeu de billes où le but du jeu était très simple. Il fallait dégommer une bille à l'aide d'une autre bille. Sauf que vous aviez choisi un terrain escarpé, plein de bosses et d'imperfections, ce qui rendait quasi impossible d'atteindre la bille, à la suite de quoi vous remportiez les billes de vos camarades, que en plus vous leur aviez vendues pour pouvoir jouer à votre jeu. Philippe Bouvard, bonsoir.
Bonsoir. Vous savez, le jeu est sans doute la plus atavique des addictions. Et si je songe à mon enfance que vous venez d'évoquer, j'y revois des grands-parents qui jouaient aux cartes, des parents qui jouaient également et plus proches de moi, des enfants qui jouent aux cartes, une épouse qui a fait du bridge une de ses principales activités, et des petits-enfants qui jouent mais qui ont remplacé les dominos par le poker en ligne, et sans doute des arrière-petits-enfants qui vont taper le carton aussi. Encore que, bon, les jeux se modifient avec les générations. Je pense que j'ai un tempérament ludique, que ce tempérament qui m'a desservi dans la vie courante et rendu parfois difficile les fins de mois, m'a aidé par ailleurs, parce que je m'étais créé tellement de besoins, et surtout à cause du jeu, que je travaillais davantage. Je veux dire, c'est cette boulimie que on a parfois remarqué avec raison, qui me poussait à travailler 14 heures par jour dans tous les domaines. Elle s'expliquait par le fait que j'avais non seulement l'état et une famille à nourrir, mais aussi un vice. Et le jeu n'attend pas, et le jeu est gourmand, et le jeu exige, comme la drogue, que pour avoir les mêmes sensations, on augmente sans cesse les doses.
Qu'est-ce qu'un tempérament ludique, Philippe Bouvard ?
Alors, un tempérament ludique, et je crois que j'en possède un... c'est un tempérament qui fait que on est toujours à l'affût de la chance, que on craint la malchance, que on joue dans la vie sans avoir besoin de cartes ni de casino. Je vais vous donner un exemple. Quand je sortais d'un casino, eh bien, ce tempérament ludique se manifestait, et de façon d'ailleurs dangereuse, parce que quand je voyais un feu rouge, j'étais tenté de le brûler en disant « je vais essayer de voir si j'ai la chance de ne pas voir une voiture en face de moi ». Ça va jusque-là, vous comprenez ? J'avais un tempérament ludique dans mes fréquentations féminines. Je choisissais des partenaires improbables parce que c'était un jeu, parce que je voulais savoir si je gagnerais. Ça a influencé également ma vie professionnelle, puisque non seulement ça m'a incité à travailler davantage, mais aussi à prendre des risques. Quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était un jeu auquel je me risquais, dont je connaissais pas les règles, et je savais qu'il y avait en face de moi un tas de partenaires qui pouvaient rendre la partie difficile. Ça a été pareil pour la télévision. Et encore aujourd'hui, pour prendre certaines décisions, je réfléchis comme je réfléchissais quand il s'agissait à la roulette de jouer les 26 et les chevaux.
Par exemple, quel type de décision vous prenez avec une technique de joueur?
Oh, des décisions plus personnelles. La vie est un jeu. Bon, là, il faut poser ce postulat. La vie est un jeu, donc la vie n'est pas entièrement sérieuse, donc on peut influer sur la façon dont on la conduit, donc il y a des bons moments qu'il faut savoir saisir et des mauvais où il faut quitter la table. Je m'étais lié avec un musicien qui obtint plus tard le Grand Prix de Rome de composition et qui s'appelait Pierre Gabet. Pierre Gabet était à la fois un très bon pianiste de jazz, un compositeur d'opéra, et il avait un père qui était administrateur du Figaro. Il s'est confirmé que je n'aurais jamais mon bac, que j'étais sur le point de m'engager pour l'Indochine, c'était vrai, pour faire une fin et ne plus avoir à répondre aux critiques familiales. Il a dit un mot à son père qui n'était pas rigolo d'ailleurs, c'est un administrateur pur et dur. Il lui a dit, voilà, j'ai un copain, il est vraiment dans tous ses états. Il veut partir pour l'Indochine et il dit qu'il voudrait être journaliste. Alors, le papa, bon, il s'est laissé faire, il m'a dit, bon, envoie-le-moi. Et je me suis trouvé devant un type extrêmement sévère qui m'a dit, écoutez, je vais vous donner un poste de garçon de course. Si dans 15 jours, vous n'avez pas fait vos preuves, vous dégagerez. Ça n'a pas été plus loin. Et puis, 22 ans plus tard, je suis parti avec le titre de directeur général adjoint.
Vous avez réussi l'examen, le test.
Mais, peut-être qu'il y a eu ce coup de pouce donné, un effet de la camaraderie que j'avais su nouer. Je dis peut-être, non, sûrement.
Et même dans la séduction, en fait, vous l'envisagez comme un jeu, ce que vous expliquez avec les femmes?
Je ne suis pas le seul. Euh,
Vous n'êtes pas
c'est
le
un
seul.
véritable, c'est un véritable jeu, oui. C'est souvent ce qu'on appelle le poker menteur, hein, parce que bon, on croit voir sur un visage des qualités, des promesses que lorsqu'on va plus loin, on ne retrouve pas. Non, c'est un jeu. Et d'ailleurs, je pense qu'on y consacrerait moins de temps si ce n'était pas en même temps qu'une façon de perpétuer l'espèce, et pas toujours, et pas tout le temps, un jeu. Alors, j'ai joué aux billes, et c'était, il n'y avait pas que des petites billes en tête, il y avait ce qu'on appelait des calots, c'est-à-dire des billes en verre qui étaient assez jolies, et que j'allais négocier ensuite dans les boutiques avoisinant le lycée. J'ai joué ensuite à toutes sortes de jeux. Pas toujours d'argent, mais très vite c'est venu. Et puis j'ai eu une passion pour le poker. Alors je ne veux pas brûler ce que j'ai adoré, mais avec le recul, je ne considère pas ce poker qui est, paraît-il, le roi des jeux, mais l'école du mensonge. Je ne le considère pas comme la partie la plus réussie de ma vie privée. Alors pendant 11 ans, tous les lundis. Chez moi, à Paris, J'ai réuni une équipe, une équipe brillante, puisqu'il y avait Bruel, qui est certainement le meilleur joueur aujourd'hui. Il y avait Vincent Lindon, il y avait Claude Zidi, il y avait...
Dalida aussi,
Comment?
Dalida.
Dalida, de temps en temps, mais elle était tellement forte, tellement qu'on évitait de jouer avec elle. Bon, bref, une équipe de gens qui étaient au départ des amis, qui sont devenus des clients et puis des adversaires. Et finalement, quand je regarde le bilan de ces 11 ans, et je parle pas de mes comptes en banque qui étaient désastreux, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mes nerfs et j'ai pas gagné grand-chose, sinon des émotions qui se payaient.
Vous vous êtes brouillé avec les amis avec lesquels vous avez joué? Ceux que vous avez évoqués comme Bruel,
Oui, enfin, sinon brouillés, au moins, je ne les ai plus vus à partir du moment où je les ai plus invités. Et d'ailleurs, je les ai invités pendant 11 ans sans qu'ils me rendent une fois l'appareil.
pas très généreux de leur
Non,
part.
mais attendez, on était dans des rapports complètement faux, à savoir que malgré mes pertes, ils me considéraient comme un casinotier puisque j'organisais les parties et que les clients sont habitués, surtout les gros clients, à être invités par les casinotiers. Ça n'allait pas plus loin.
Ouais, vous avez complètement en fait modifié les rapports à travers le jeu.
Alors par la
Ouais.
suite, j'ai joué à tous les jeux au casino, j'ai joué à la roulette, j'ai joué au blackjack, et aujourd'hui, où j'ai un peu plus de temps de libre et où parfois je le déplore, mais où j'habite beaucoup sur la Côte d'Azur, plus qu'à Paris, de temps à autre, je mets quelques piécettes dans les machines à sous. Enfin, des piécettes, ça n'existe plus. Je mets quelques billets de plus en plus petits dans les machines à sous. Et je me suis aperçu sur le tard, ah, que c'est dommage que j'ai pas fait cette constatation plus tôt, qu'avec des très petites mises, j'avais autant d'émotions qu'avec les grosses.
Et comment vous expliquez ce goût pour le jeu? Comment est-il né à part d'être entouré de gens qui jouaient? Quelle sensation ça amenait chez vous? Quelle envie?
Non, mais attendez, je veux pas me substituer aux psychologues et aux psychiatres qui ont traité le sujet, mais le goût du jeu est quelque chose qu'on a en soi très tôt, qui est souvent hérité de la famille, qui est entretenu par l'entourage, parce que on ne joue pas seul, sauf aujourd'hui avec son ordinateur et en ligne. Et ça correspond à un trait de caractère, un trait de caractère qui est assez audacieux, parce que il faut considérer le jeu comme le dernier aventurier dans une société d'assistés. C'est le seul qui soit assez fou pour, comme vous le disiez tout à l'heure, perdre en un soir le gain de toute une année. C'est quelqu'un qui se projette toujours sur l'avenir, qui n'est jamais content, qui essaie de faire sans arrêt quitte ou double avec la vie comme avec les cartes.
Vous avez eu des dettes de jeu importantes?
J'ai eu des dettes de jeu, mais ceux envers qui je les avais contractées étaient là pour me rappeler ou pour faire valoir un principe de poker qu'il faut laisser aux perdants les moyens de se refaire un peu pour qu'ils puissent perdre davantage.
C'est un petit peu pervers comme procédé, ça, Philippe Bouvard, de la part des casinotiers. Est-ce que votre passion du jeu vous a mis en difficulté, professionnellement?
Non, puisque au contraire, il m'a poussé à prendre des risques que j'aurais pas pris autrement. Simplement, bon, quand j'étais dans un casino où j'étais tenté de faire à la fois l'ouverture et la fermeture, Il fallait parfois qu'on vienne me tirer par le bas du pantalon ou du veston pour me rappeler que j'avais un rendez-vous, une interview ou que le journal ou la radio me réclamait. Non, on oublie tout quand on joue, hein, y compris, surtout, qu'on n'a pas les moyens de jouer.
Oui, vous avez d'ailleurs écrit que le jeu était un mode d'oubli de soi-même. Alors, pour vous citer plus exactement, seul le jeu permet de tout oublier, le jour, la nuit, l'heure, le travail, la famille, l'environnement, les obligations et souvent, hélas.
Les trois ou quatre bouquins que j'ai publiés sur le jeu sont les seules occasions que j'ai eues de gagner un peu d'argent grâce au jeu. Mais bon, cet argent, il était aussitôt amputé par les impôts qui commençaient à naître. Mais enfin, j'ai pu m'attirer certaines sympathies, notamment avec un livre qui s'intitulait « Joueurs, mes frères », et où je crois, je décrivais à la fois notre passion et notre détresse.
Oui, parce que vous critiquez aussi beaucoup le monde du jeu. Vous ne faites pas qu'expliquer, que dire les faits, vous critiquez aussi.
Oui, mais parce que j'avais une grosse expérience, payée très cher, mais et puis parce que attendez, quand on est dans un casino, qui est quand même le lieu géométrique du jeu, on est à la fois dans une foule et tout seul. Il y a une solitude extraordinaire. Chacun, c'est une forme d'autisme, le jeu à ce moment-là. On ne voit que son propre jeu. On ne s'intéresse pas aux autres. C'est un univers complètement asexué et déshumanisé.
Et encore plus avec les machines, vous diriez?
Ah, les machines n'ont rien ajouté, sinon que quand elles ne sont pas gentilles, on ne peut pas les engueuler comme on engueule un croupier.
Peut-être donner un coup de pied dedans ou un coup de poing?
Ça arrive, qu'on les injurie et qu'on envoie un coup de pied dans une machine qui d'ailleurs résiste fort bien.
Déjà en ligne, vous avez dit on va pouvoir se ruiner sans sortir de chez soi.
Ah ben oui, aujourd'hui, c'est terrible d'ailleurs ça, parce que je vois mes petits-enfants qui jouent seuls contre des dizaines de partenaires, sans les voir, et qui sont très 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 mordus, et à qui ça coûte cher, parce que faut bien le dire, tout est organisé, que le jeu soit en ligne ou à table, pour que les joueurs perdent. Et c'est organisé avec l'aval du ministère de l'Intérieur, qui est la tutelle, et une tutelle qui est chargée de protéger les joueurs. Alors, essayez de remuer ça dans tous les sens, vous n'arrivez qu'à la conclusion que l'État s'arrange pour que les joueurs perdent. Voilà, et sachant qu'il aura sa plus grosse part dans les pertes que feront les joueurs.
Ça vous a joué des tours de jouer comme ça tout le temps? Ça vous a joué beaucoup de tours, Philippe Bouvard? Non?
Non, ça joue pas des tours. Le jeu fait ce qu'il veut avec des règles qui ont été établies par des technocrates qui ne sont pas des joueurs, par des fonctionnaires qui n'y connaissent rien non plus, sinon que c'est un vide-poche supplémentaire. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que les comptables du Trésor public appellent des recettes de poche. Et d'ailleurs, je suis frappé parce que par tout ce qu'on dit sur l'argent, par les études sur la corruption, par et je me dis, moi, avec ma petite philosophie personnelle à 4 centimes, je dis pas 4 sous parce que ça fait vieux jeu, que de toute façon, on n'a jamais dans sa poche un argent qui ne provienne d'une autre poche, surtout depuis que malencontreusement, on a arrêté la planche à billets.
Vous êtes déjà allé à Las Vegas ou à Macao?
Oui, alors je pense à Macao, non. À Las Vegas, j'y suis allé deux fois. Ça m'a pas plu d'abord parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un infirme linguistique et je suis incapable d'aligner deux mots d'anglais. Et ensuite, parce que c'est trop. Je veux dire, le fait de descendre de l'avion et d'avoir les premières machines à sous dans le couloir qui va jusque à la première salle de l'aéroport, le fait d'être dans les toilettes et d'assister en même temps, de devoir assister aux tirasses du bingo, bon, c'est passionnant, c'est drôle pendant un ou deux jours et après on n'en peut plus.
Ouais.
C'est peut-être une façon de se désintoxiquer, d'aller à Las Vegas.
Une cure à Las Vegas pour se désintoxiquer du jeu, pourquoi pas. Qu'est-ce que l'on apprend du monde et des hommes dans une salle de jeu, Philippe Bouvard?
Oh, on apprend beaucoup de choses et pas le meilleur, hein. D'abord, on apprend, on apprend à voir de près la folie, car c'est une folie. Et les stigmates physiques sont tellement apparents qu'on ne peut pas ne pas les voir. Je veux dire que la physionomie du joueur change. À certains moments, ses yeux se révulsent. Il est agité de tremblements spasmodiques. Je veux dire, c'est tous les symptômes d'une maladie psychiatrique grave. Bon, alors après, on écoute les confidences des joueurs, bien que chacun reste muré dans sa propre mésaventure. Et là, c'est pas plus gratifiant, hein, ce sont des gens. Oh, je me souviens, j'avais fait un reportage à Londres, mais avec un interprète, sur les joueurs anonymes, qui étaient calqués sur les alcooliques anonymes. C'est-à-dire, ce sont des gens que la passion du jeu a détruits et qui viennent pour faire part de leur expérience et essayer de dissuader de leurs vices d'autres joueurs. Et il y avait un brave type qui était monté sur le podium et qui avait dit je suis médecin, j'ai fait de brillantes études, j'avais une belle clientèle, et puis le jeu m'a détourné de tout ça, j'ai perdu mon cabinet, ma femme m'a quitté, mes enfants m'ont quitté. Et un jour, j'ai décidé de me donner la mort. Alors, je suis allé sur les bords de la Tamise, et puis j'ai enlevé mon veston et je me suis préparé à plonger. Puis je me suis dit quand même, il faudra que je me donne une dernière petite chance. Alors, j'ai pris dans mon gousset une pièce de monnaie et j'ai dit, si elle tombe sur pile, je survis. Elle est tombée sur pile et c'est pour ça que je suis là.
Il a joué jusqu'au dernier moment. Quels sont les moments justement de plus grande intensité dans le jeu, Philippe Bouvard?
Alors, c'est pas comme on croit quand on gagne que la sensation est la plus intense, c'est quand on perd. Quand on gagne, on est seulement plus intelligent que tout le monde, plus intelligent que le casinotier qui va vous raccompagner avec force, compliments jusqu'à la porte, alors que vous partez avec une partie de sa caisse. Non, on est au-dessus de tout le monde, on est plus intelligent, on a la chance, on vérifie des théories fumeuses qui s'écrouleront d'ailleurs la semaine d'après. Non. C'est quand on perd, c'est la descente au fond du gouffre, c'est le fait qu'on s'accroche et que quand on a touché le fond, eh ben parfois on remonte un peu.
Donc finalement, il y a presque un certain plaisir un peu masochiste, non, à perdre? Non? C'est totalement désagréable ou est-ce qu'il y a comme il y a une excitation aussi, non? Qu'est-ce que vous diriez?
Non, mais attendez, le joueur achète des sensations. Alors, il achète d'abord l'idée complètement farfelue qu'il va gagner, que la chance peut sourire à quelques-uns, ce qui arithmétiquement est faux. Ensuite, il est persuadé que c'est une activité très noble à laquelle il se livre, parce que on lui a dit que les casinos faisaient vivre le tourisme et que c'était des endroits bien illuminés où les gens sont bien habillés. Enfin, tout ça a quand même une certaine allure, hein. C'est pas crapoteux, sauf les clandestins où j'ai jamais mis les pieds. Et puis il y a la sensation que on va se mettre en cause, avec ce que j'ai nommé par la suite le risque immobile, parce que nous sommes tous enclins à prendre certains risques en raison des émotions ou en raison d'un métier ou d'un pari, mais pour prendre ces risques, il faut faire du sport, faut aller à l'autre bout du monde. Là, vous ne bougez pas, et encore moins aujourd'hui où on joue chez soi, et on peut compromettre toute sa vie. Alors, c'est l'émotion est d'autant plus forte que le risque est grand.
Vous n'avez pas essayé de dissuader vos enfants de jouer, d'ailleurs ?
Non. Non, pas du tout. De temps en temps, je leur dis, attention, ne risquez pas trop. Ils sont assez raisonnables. Et il y en a qui m'ont dit, oh, on joue moins parce qu'on perdait beaucoup. Non, je ne veux pas. Attendez, je serais malvenu de jouer les pédagogues de casino, comme d'ailleurs, soi-disant, il en existe, puisque dans tous les grands casinos, il y a un psychologue qui est chargé de recevoir les gros perdants. C'est ce qui me fait rire, mais nerveusement.
Qui a décidé de mettre un psychologue dans les casinos? Ce sont les patrons de casinos ou c'est une mesure de l'État?
C'est à la demande des pouvoirs publics qui ont toujours peur que les contribuables dépensent leur argent autrement qu'en payant des impôts.
Merci Philippe Bouvard, on se retrouve demain soir avec vous sur France Culture dans À Voix Nue.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Amandine Casadamon avec Philippe Bouvard. À Voix Nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.